Bonsoir. Alors, toute la question, c'est de savoir si Dame Nature va accepter de nous faire vivre et de nous faire crédit encore très longtemps. Car oui, nous vivons au-dessus de nos moyens écologiques. Notre découverte se creuse. D'année en année, il y a 50 ans, les humains consommaient ce qu'ils avaient pour manger, pour se transporter, pour se loger et surtout n'émettaient pas plus de carbone que les océans et les forêts ne pouvaient en absorber. Désormais, c'est début août que notre crédit est épuisé. Chaque année, c'est un petit peu plus tôt. En gros, faudrait entre 2 et 3 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Et Dame Nature n'est pas très contente et commence à nous en vouloir un petit peu et nous le montrer. Des incendies de forêt invraisemblables, y compris dans des pays épargnés jusque-là, des vagues de chaleur extrêmes et qui durent et qui se succèdent. On sait déjà que 2018 sera probablement l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Les 37-38 approchaient régulièrement en France depuis le début de l'été. 53 en Californie et ces 53, on les aura en France dans 30 ans si rien ne bouge. Alors, à quoi s'attendre et comment peut-on encore changer les choses? Quelle solution? Valérie Gramont est avec nous dans ce studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice des programmes France de WWF, le Fonds mondial pour la nature. Nous sommes également très heureux d'accueillir le climatologue Jean Jouzel. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud Dousquet.
Vous êtes aussi l'ancien vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Et puis à côté de vous, en face de vous en l'occurrence, Vincent Martinet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Alors, pas mal de questions déjà sur la page de l'émission, le site franceinter.fr et puis le standard évidemment 01 45 24 7000. On se souvient de Jacques Chirac qui expliquait en 2002 que la maison brûlait et que nous, on regardait ailleurs. Alors 16 ans après, est-ce qu'on peut encore éteindre l'incendie? Nos invités vous répondent jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Je suis désolé de commencer une émission d'été, en général légère et souriante, par une question fin du monde. Mais que va-t-il se passer si chaque année, on épuise un peu plus tôt les ressources? Est-ce que dans 80, 100, 200 ans, la Terre pourrait ne plus rien avoir à nous offrir? Est-ce qu'on peut tuer la ressource? Jean Jouzel.
Bien, pour ce qui concerne la ressource, de mon côté, je m'intéresse plus à la capacité de notre planète à absorber le gaz carbonique, parce que c'est bien ça dont on parle. Ça fait pleinement partie de cette empreinte écologique qui, effectivement, nous fait froid dans le dos, parce que... c'est le 1er août au niveau mondial, mais en France, c'est beaucoup plus tôt encore. Si on se place au niveau français, c'est début mai. Donc, nous ne sommes pas de bons élèves en termes d'empreinte écologique. Pour ce qui concerne la capacité à absorber le gaz carbonique et, à maîtriser les autres gaz à effet de serre, ce n'est pas la fin du monde si nous ne faisons rien, mais c'est la fin de notre monde actuellement. Je veux dire par là que nous rentrons dans un climat complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Un degré de réchauffement climatique depuis un siècle, c'est déjà perceptible, c'est déjà dangereux. Qu'on voit par exemple, y compris en Europe, il y a évidemment à travers les feux de forêt par exemple, ou les grosses canicules, et puis il y a bien sûr des continents beaucoup plus vulnérables que le nôtre. Mais voilà, donc ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera un monde dans lequel il sera très très difficile de vivre, y compris pour les jeunes d'aujourd'hui, quand je dirais, dans la deuxième partie de ce siècle, faire face à des températures moyennes de 4-5 degrés, c'est très difficile.
On a reçu un message d'un inspecteur de l'environnement à l'Agence française pour la biodiversité. Message arrivé sur la page de l'émission, le site internet franceinter.fr. Lui, il parle d'anéantissement biologique, estimant que la justice ne comprend pas les enjeux, la politique non plus, le monde économique encore moins. Le monde que nous connaissons aujourd'hui ne tiendra pas, il va s'effondrer. C'est pas une prophétie absurde, c'est scientifiquement modélisé. Le véhicule humanité, dit-il, est sorti de la route. Il a un devoir de réserve, donc il a souhaité garder l'anonymat. Est-ce que vous souscrivez à cette théorie qui ne serait donc pas une prophétie? Valérie Gramont.
Oui, écoutez, on le voit avec les épisodes actuels de canicule et extrêmes, on n'est plus dans la science-fiction. On est réellement dans des épisodes où on détruit littéralement, massivement les capacités de la planète à se régénérer. Et quelque part, on scie la branche sur laquelle on est assise, puisque la planète, la nature, si on respecte son rythme de renouvellement, est capable non seulement de nous produire des stocks de poissons, mais également, et encore plus important, de vivre dans un climat stable, de filtrer l'eau, d'avoir un sol fertile. Et c'est bien ces capacités-là, par l'utilisation abusive de pesticides, par du gaspillage alimentaire, 30% au niveau mondial, par du suremballage, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique déversé chaque minute dans la Méditerranée, et par une bétonisation extrême, l'équivalent de 240 terrains de foot par jour en France. Et ce faisant, on détruit des prairies, des forêts, tout ce qui nous est utile aujourd'hui pour survivre.
Pour terminer ce premier tour de table rapide, hein, je voudrais vous entendre, Vincent Martinet, cette notion d'effondrement, c'est plus une notion taboue ?
Il y a des précédents, des sociétés qui se sont effondrées, ça dépend de plusieurs facteurs, et notamment leur préférence culturelle. Est-ce qu'ils prennent en compte ces défis ? Est-ce qu'ils font quelque chose pour lutter contre ces enjeux environnementaux ? Donc quand on pense aux ressources naturelles, la réponse de la nature est rapide. Si on épuise un stock de poissons, l'année d'après, il n'y en a plus. Si un sol s'érode, l'année suivante, il n'y en a plus. Donc on a très vite une réponse de la nature à laquelle il faut s'adapter et ça peut créer des conflits. Si on pense au climat, la claque sera dans longtemps. Et ce n'est pas nous qui allons la prendre, ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Et donc,
mais on commence à sentir, si ce n'est la claque, le vent de la claque. C'est une sorte d'illustration ce qui se passe en ce moment avec les incendies de forêt, avec les températures extrêmes partout dans le monde. Vous pensez que ça éveille les consciences concrètement maintenant, ce qui se passe ?
Je ne sais pas si la météo est l'ami du climatologue ou pas. Quand il y a une canicule, oui, mais quand au nouvel an, il fait froid à New York et que Trump dit c'est une preuve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est un objet à double tranchant. Ce qu'il faut voir, c'est la fréquence de ces événements qui augmente.
On va partir à Toulouse, où nous attend depuis quelques minutes déjà Dominique. Bonsoir Dominique.
Oui, ben bonsoir madame et bonsoir messieurs. Vous parliez d'effondrement. Bon, moi c'est ce que je pense. Hein. On va vers un effondrement. Un effondrement, ça me fait penser à ce livre de Jared Diamond qui s'appelle d'ailleurs Effondrement. On l'a déjà vu dans d'autres sociétés. Mais bon, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux être un peu plus optimiste dans le sens où j'ai un scénario à vous proposer. Admettons qu'à partir de demain, nous ayons changé de société, nous ne sommes plus dans la surconsommation, nous sommes dans une consommation raisonnable, etc. Enfin bref, nous avons enfin compris et nous prenons le taureau par la queue, on va dire. Moi, ce que j'aimerais savoir, en partant de ce principe, c'est combien d'années il va falloir pour trouver un équilibre, c'est-à-dire que le 31 décembre, on ait consommé pile poil les ressources naturelles que l'on doit consommer, pas plus, etc. Et j'aimerais aussi savoir combien d'années supplémentaires il faudrait pour éventuellement avoir un excédent, c'est-à-dire ne consommer que 80% afin de garder 20%, pour que l'année suivante, si éventuellement il y a une catastrophe, un tremblement de terre, une famine, eh ben, on tape dans cet excédent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un système de grenier, quoi. Donc, au total, combien d'années pour retrouver l'équilibre, plus combien d'années pour éventuellement, en étant très optimiste, avoir un excédent de 15 ou 20%.
Alors, voilà. Que pensez-vous ? Merci de votre question, ouais. Dominique. Que pensez-vous du modèle de société proposé par Dominique ? Et s'il fonctionne, combien de temps il faudrait pour retrouver un bel équilibre ?
Alors, Jean Jouzel. Je peux commencer sur le climat. D'abord, il y a dans le meilleur des cas, nous irons vers un autre équilibre, vers un équilibre, si possible, en deçà de 2 degrés, ou bien en deçà de 2 degrés, c'est l'objectif de l'accord de Paris, c'est le meilleur des cas, mais nous ne reviendrons jamais au climat que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas forcément très grave, mais il faut bien se rendre compte de ça, c'est irréversible ce changement. Alors l'équilibre, pour stabiliser, disons, le climat, il faut effectivement arriver à ce qu'on appelle neutralité carbone. Et neutralité carbone, c'est-à-dire que eh bien, notre planète, on n'émet pas plus de gaz à effet de serre que notre planète n'est capable d'en absorber.
Alors ça, c'est prévu, c'est promis,
c'est prévu,
en tout cas.
Alors, pour... donc, on parle de la deuxième partie de ce siècle. En France, Nicolas Hulot a avancé, disons, disons à juste titre, a dit qu'on souhaitait avoir une neutralité carbone en France à horizon 2050 au niveau planétaire dans l'accord de Paris, c'est la deuxième partie de ce siècle. C'est absolument indispensable si l'on veut stabiliser le climat, ce qui est donc avoir ce nouvel équilibre. Alors si on fait plus, si on n'atteint pas cet équilibre, eh bien irrémédiablement le climat continuera à se réchauffer. De façon plus ou moins importante, mais même 20% de plus, disons, si on garde encore 20% des émissions, on ira largement probablement vers 3 degrés d'ici la fin du siècle.
Vincent Martinet, je vous voyais acquiescer au modèle de société proposé par Dominique.
Alors, je ne sais pas comment l'atteindre, ce modèle de société. Dans sa question, il demandait combien de temps il faudrait. L'Institut qui calcule l'empreinte écologique nous dit que si nous repoussons de 4,5 jours par an la date du dépassement, on atteindrait à 2050 l'équilibre global. Alors bien sûr, cet indicateur est global, et en fait, ce qu'il faudrait regarder, ce sont les équilibres par écosystème. Globalement, moi, ce qui me fait peur, c'est notre incapacité à mettre la société dans la bonne direction. Le changement, vous avez parlé tout à l'heure du changement de prise de conscience, il est très lent. Et s'il n'y a pas des instruments de politique publique qui viennent forcer les gens qui ne croient pas que l'environnement est important, les forcer à agir bien pour l'environnement, nous n'irons pas vers cette société.
Alors, prise de conscience au niveau planétaire, je ne sais pas. Au niveau national, on peut peut-être commencer à se dire que les choses bougent un tout petit peu. Je vous propose un très court extrait d'une conférence de presse commune donnée il y a quelques semaines, c'était au début du mois de juillet, par Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, et par le Premier ministre, Édouard Philippe, et... Vous allez l'entendre, on commence à évoquer ce que nous disions tout à l'heure autour d'une société purement, simplement en danger. Édouard Philippe.
Je termine sur cette question générale en forme de question philosophique par la référence à un livre qui est Effondrement de Jared Diamond.
Collapse
en anglais, qui montre comment, si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Compliqué.
Compliqué, mais sourire de Nicolas Hulot en s'apercevant que son Premier ministre, son chef, avait pris conscience de la mesure du problème. Valérie Gramont, la prise de conscience, vous en êtes certaine ? Elle s'est faite au niveau politique, chez nous en tout cas, ou vous avez encore des doutes ?
Écoutez, il y a des points qui ont été marqués. On a effectivement une stratégie bas carbone, on a un plan biodiversité. Maintenant, il faut transformer l'essai. Puisque l'accord de Paris, on peut s'en réjouir, à fixer des objectifs ambitieux dans la mise en œuvre. On est plus en attente, puisque les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse et qu'on n'arrive pas, sur le trafic routier, à obtenir vraiment des baisses conséquentes à la hauteur des enjeux, et on n'arrive pas non plus à mettre en œuvre le plan de rénovation thermique. Pour ce qui est de la biodiversité, c'est une première étape, c'est très bien qu'on parle de biodiversité. C'est pour l'instant sous les radars médiatiques et il est indispensable de préserver ces puits de carbone, de préserver cette nature. On a un accord international prévu dans 2 ans à Pékin. Et il faut vraiment pas rater ce rendez-vous et obtenir, comme on l'a fait pour l'accord de Paris et pour le climat, un objectif ambitieux. Maintenant, le gouvernement a là une fenêtre de tir, environ 6 mois, pour agir sur l'alimentation, la mobilité et l'énergie, avec des projets de loi et des décisions qui sont attendues.
Sur l'alimentation notamment, on a une question de Charlotte qui nous appelle depuis la Bretagne, le département de l'Ille-et-Vilaine. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir à tous. Je suis paysanne et installée du coup en vache laitière. En fait, j'ai entendu le discours de Nicolas Hulot cet après-midi et j'ai vraiment entendu ce qu'il disait. Et enfin, pour moi, l'agriculture et l'alimentation, en fait, c'est aussi au cœur. C'est un énorme levier pour améliorer le climat. On peut vraiment revenir en arrière si on produit une agriculture de qualité avec de l'alimentation de qualité sur les territoires, en relocalisant aussi la demande et l'offre sur les territoires, en réfléchissant aussi à l'impact en fait de notre agriculture dans le nord sur les pays du sud, parce que par exemple quand on a des systèmes très intensifs avec beaucoup de maïs, on sait aujourd'hui qu'il faut du soja qui vient d'ailleurs. En Bretagne, il y a eu des mesures agro-environnementales qui ont été élargies les dernières années suite aux crises, entreprises, plutôt que de favoriser l'investissement, ils ont voulu mettre ça en place. On sait que ça amène du revenu en plus pour les paysans, ça leur amène de l'autonomie et l'impact sur les autres pays est largement mieux. La réduction des pesticides, enfin, ça nous concerne tous, nous les paysans aussi, parce qu'on est les premiers à être victimes de cette agriculture-là. Et sans mesure publique forte, pour moi, il faut mettre en adéquation le discours de Nicolas Hulot avec celui de Stéphane Travert et de Emmanuel Macron suite aux états généraux de l'alimentation, parce qu'ils sont partis sur une agriculture biologique forte, c'est très bien parce qu'on réduit les pesticides, mais on peut aussi faire de l'agriculture biologique intensive et industrielle, parce qu'il y a de l'agriculture biologique aujourd'hui qui fait importer du soja qui vient de Chine. Donc reposons-nous les questions et faisons une agriculture qui favorise la relocalisation de l'emploi, qui fasse attention à l'environnement, parce que c'est très important ce qu'on prépare pour demain pour nos enfants. Et nous, les paysans, on voit aussi tous les jours ce que c'est des oiseaux en moins, des abeilles en moins. Enfin, on peut vraiment le mesurer, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment une grosse prise de conscience à prendre et il faut que ce soit des mesures fortes.
Merci Charlotte de votre témoignage. On va peut-être vous entendre là-dessus, Vincent Martinet. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut National de Recherche Agronomique.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auditrice. Il est critique d'accompagner l'agriculture dans la transition agroécologique, de faire en sorte de resituer dans les mêmes territoires l'élevage et la production céréalière pour que les cycles des nutriments soient bouclés. Il est très important aussi de faire prendre conscience aux consommateurs que ces choix de consommation alimentaire influencent à la fois la viabilité des systèmes de production locaux, mais aussi le climat. L'agriculture est un des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et j'adhère tout à fait à ce qui a été dit.
Valérie Gramont, quand Nicolas Hulot dit qu'il veut changer d'échelle, ça veut dire quoi selon vous ?
Écoutez, il a engagé une prise de conscience au gouvernement, mais il faut accélérer. Il faut et réellement, effectivement, que l'ensemble du gouvernement, et pas seulement lui, soit convaincu.
C'est là où vous dites 6 mois.
On dit 6 mois, et moi pour aller dans le sens aussi de l'auditrice, je partage complètement son point de vue. On a au WWF sorti une étude cette année sur les paniers responsables. On a calculé qu'un ménage avec 2 enfants qui consommait une alimentation simple, locale, de saison, un petit peu moins de protéines animales, en tout cas pour se caler sur les recommandations du plan national santé, donc c'est meilleur pour la santé, et en diminuant aussi un peu la part des produits industriels qui sont souvent composés avec de l'huile de palme, donc qui participent à la déforestation ailleurs. Ça ne coûtait pas 1 euro de plus. C'est bon pour la santé et ça protège l'environnement. Donc on peut reculer de 30 jours environ le jour du dépassement. Et on a une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 40%.
Jean Jouzel, là-dessus, vous souscrivez ?
Oui, c'est effectivement le lien entre agriculture et émissions de gaz à effet de serre est vraiment, disons, bien documenté. Hein, mais ça représente quand même moins de 20% des émissions. Le principal en France, ce sont quand même les émissions liées aux combustibles fossiles. Un des aspects, c'est que pour ce qui concerne la partie énergétique, on a une loi de transition énergétique qui est ambitieuse. Et je regrette, et je l'ai dit assez souvent, qu'il n'y a pas le symétrique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'objectifs pour le monde agricole français. Alors que le monde agricole français, commence réellement à s'en soucier. Ça ne veut pas dire, mais c'est vrai que j'ai déjà émis le souhait d'avoir un peu aussi des objectifs en termes de gaz à effet de serre pour le monde agricole.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Et à 19h37, nous retrouvons Sophie dans le département de l'Aude. Bonsoir Sophie.
Bonsoir France Inter. Alors ma question, c'est le rôle du citoyen. Le citoyen qui souhaite préserver les ressources naturelles au-delà des actions individuelles qu'on connaît tous, qu'on devrait tous connaître, et personnelles, a-t-il un pouvoir d'action ? Actuellement, les municipalités, globalement, courent après les investissements dans cette période de restriction de budget et parfois font des choix vraiment hasardeux. Le citoyen n'est pas toujours consulté ou pas du tout. Ainsi, dans ma région, j'habite à Luxor-Orbieu, dans l'Aude, dans les Corbières. La municipalité de Lézignan impose la construction d'une centrale d'enrobage de bitume en plein milieu du vignoble. Il y a une pétition qui a circulé, on a obtenu 9000 signatures, les communes alentours sont contre ce projet, mais malheureusement, nos bulletins de vote ne nous servent qu'une fois tous les 5 ans. C'est déjà précieux, mais c'est pas suffisant. Alors, dans un secteur où beaucoup de viticulteurs font des efforts pour passer au bio et offrir de la qualité, préserver ce secteur qui est vraiment naturel et très beau dans les Tordières, il y a une contradiction en soi. Alors, moi, je me pose la question, comment le citoyen lambda peut se faire aider dans la préservation des ressources globales et lutter contre des schémas de fonctionnement qui sont d'un autre temps, puisque tout ce que vous dites, ça impose le changement très vite. C'est une très grosse question qu'on peut se poser en tant que citoyen, parce qu'on a l'impression d'être totalement impuissant.
Merci de cette question fondamentale, en effet, Sophie. Jean Jouzel, en dehors du bulletin de vote, de temps à autre, quelles armes pour le citoyen ?
Oui, les armes. Enfin, si on revient sur... sur l'empreinte écologique qui laisse une large part à l'alimentation à travers culture, élevage et la pêche. On a quand même des choix aussi dans notre alimentation. On a parlé du gaspillage, disons, alimentaire, mais aussi il y a bien sûr la recueillette des ressources et puis aussi un peu d'attention portée à ce que l'on mange. Mais tout cela, c'est quand même le citoyen qui décide. En termes, par exemple, de surface bâtie, parce que l'artificialisation des terres est aussi un des problèmes, c'est effectivement plus difficile, c'est un peu plus proche de ce que dit l'auditrice ici. C'est peut-être plus difficile, mais je crois qu'on peut quand même aussi sensibiliser, disons chacun d'entre nous à cette nécessité de préserver vraiment de limiter l'extension de l'artificialisation des terres. En termes d'effet de serre, moi je rappelle toujours que quand on parle, disons quand on tient compte de notre alimentation, de la façon dont on se déplace, la façon dont on se comporte chez soi, le domestique, ça représente plus de 60% des émissions. Et ça, ce sont des gestes de chaque jour quand même.
Faut balayer devant sa porte.
Voilà,
parce qu'on parle depuis le début de l'émission de Trump, de COP21, de Nicolas Hulot, mais nous aussi, simples citoyens, on peut éviter de creuser la dette de la planète. On a pas mal évoqué, Valérie Gramont, l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres pistes, notamment dans les transports, par exemple ?
Bien sûr, il y a beaucoup de pistes dans les transports et là, je vais dans le sens aussi de l'auditrice. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on arrive à une période où les Français sont tout à fait prêts, où les Français sont même excédés par la qualité de l'air dans les métropoles, par l'utilisation des pesticides, par le gaspillage, les plastiques dans les océans qui sont ingérés par les poissons, qui se retrouvent dans leurs estomacs. Et je pense qu'il faut utiliser toute cette indignation, toute cette capacité de mobilisation. Il faut demander des comptes aux élus, il faut demander des comptes aux entreprises, on est aussi des consommateurs. Il y a une maturité une prise de conscience qui s'est quand même révélée là dernièrement sur des thématiques. Sur la mobilité, on utilise 10 fois moins le vélo que les pays du Nord. Alors bien sûr, le vélo ne peut pas être utilisé dans tous les cas, mais quand même, il n'y a pas de raison pour qu'on soit le mauvais élève de l'Europe là-dessus. Et en fait, toutes les études montrent que quand on offre des infrastructures qui sont sécurisées, des pistes cyclables, les gens utilisent le vélo. Et aujourd'hui, les derniers arbitrages sont en train d'être rendus sur un fonds vélo. Ils ne sont pas très bons auprès du gouvernement. C'est tout à fait dommage parce que ça ne coûte pas cher et les Français sont tout à fait prêts à utiliser leur vélo. Bien sûr, il y a d'autres aspects. Il faut passer. On a une addiction aux énergies fossiles. Donc, il faut passer d'un transport individuel fossile, de la voiture, qui finalement ne satisfait entièrement personne parce que passer des heures dans des embouteillages, ça n'est pas très satisfaisant. À une voiture électrique qui soit insérée dans un resto, dans un réseau de transport en commun, qui soit partagé, et d'autres voies.
Il y a de l'espoir quand même.
Bien sûr.
Côté énergie fossile, c'est mieux, consommation réduite de 40% en 2030 par rapport à aujourd'hui, au lieu des 30% prévus. Donc on serait même un petit peu au-delà des objectifs fixés.
Ah non, les émissions de gaz à effet de serre ont repris plutôt à la hausse. Par contre, effectivement, c'est un levier...
Pour les énergies fossiles,
oui,
ça serait mieux. On en consommerait de moins en moins et au-delà des prévisions.
Oui, et on est quand même très en retard sur les énergies renouvelables.
J'essaie de trouver quelques rayons de soleil dans ce panorama.
Non, le rayon de soleil, c'est que tout est possible techniquement et rentable économiquement. Donc ça, c'est deux informations qui sont quand même très importantes.
Mais si en général, les grosses décisions ne sont pas prises, c'est un problème de coût, c'est l'impopularité des mesures qu'il faudrait prendre qui représentent un frein, Vincent Martinet.
Cette impopularité joue beaucoup. Il y a des technologies qui sont efficientes, rentables, qui ne sont pas adoptées. Donc il est nécessaire de comprendre les préférences des gens, des producteurs, des consommateurs, de voir quels sont les déterminants de leurs décisions pour pouvoir influer sur leurs décisions. Et cela nécessite, comme le disait l'auditrice, une implication et aller demander aux élus quels sont leurs choix, pourquoi ils ont fait tel arbitrage plutôt que tel autre en termes de développement local, les mettre face à leurs responsabilités, parce que le bulletin de vote, malheureusement, on a beau l'utiliser une fois tous les 5 ans, mais souvent on est déçu de ce qui sort. Soit c'est pas le candidat qu'on voulait, soit il ne fait pas ce qu'il avait promis. Donc plus de démocratie locale serait souhaitable.
Sur les énergies fossiles, on va y revenir avec cette question de Nicolas qui nous appelle de l'Isère. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir, je vous appelle parce que malgré le déploiement de ces 10 dernières années des énergies renouvelables, 85% de l'énergie primaire mondiale reste des énergies fossiles. Les métaux rares sont indispensables dans les moteurs, dans les batteries et dans les panneaux photovoltaïques et risquent de manquer. La Chine est en train de faire une révolution décarbonée dans le domaine du nucléaire, notamment avec la fission liquide, où avec 4 tonnes, on peut remplacer 4 tonnes de pétrole par seulement 4 grammes de ce liquide. Ma question, elle est autour donc du nucléaire actuel, notamment en France. Que pensez-vous du nucléaire de génération 4 et pourquoi si peu de recherches est faite en France?
Qui veut répondre à Nicolas? Une question assez pointue. Jean Jouzel.
Oui, moi, enfin, je peux répondre. Bon, la génération 4 est effectivement intéressante. Il y a quand même pas mal de recherches faites en France, au CEA en particulier. Mais je ne suis pas sûr pour le moment. Donc, ça reste, la génération 4 reste quand même des surgénérateurs. Donc, c'est pas si simple à mettre en œuvre, hein, on voit bien. Je ne suis pas sûr de ce que vous dites pour la Chine, parce que ce que vient de faire la Chine, c'est un EPR, mais c'est pas un surgénérateur. Donc voilà, donc effectivement, le nucléaire fait partie du paysage français. C'est moins vrai à l'échelle mondiale, en moyenne. En France, c'est quand même 80% de l'électricité, mais il ne faut pas oublier en France que notre première source d'énergie de loin reste les combustibles fossiles. Hein, non. Il ne faut pas réduire le débat à l'électricité. Mais effectivement, ça fait partie du paysage de discussion, le développement, y compris la génération 4. Mais bon, il y a beaucoup de chemin à faire. Et on voit bien les difficultés actuellement, par exemple, de mise en œuvre, ne serait-ce que plutôt de la génération 3 des EPR.
Je voudrais vous ramener à ce qui a été signé pas très loin d'ici, au Bourget précisément, ce qu'on a appelé les accords de Paris par la COP21, cet accord qui était plein de bonnes intentions et de résolutions, signé par pratiquement 200 pays depuis les États-Unis de Donald Trump sont sortis de cet accord, les pays qui s'engageaient à limiter leurs émissions de CO2. On en est où du respect de ces promesses et est-ce que cet accord tel qu'il a été ratifié peut encore servir à quelque chose? Valérie Gramont.
Bien sûr, il est très important. Il y a eu un avant et un après. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant dans sa mise en œuvre. Tout simplement, il faut le décliner et le compte n'y est pas pour ce qui est de la stratégie bas carbone en France. Mais évidemment, sans accords internationaux, c'est pour ça que c'est indispensable de le faire pour la nature et pour la biodiversité dans 2 ans en Chine, ça structure. Évidemment, on a besoin de se mettre...
C'est la marche suivante, l'étape suivante.
Bien sûr.
Vincent Martinet, là aussi, grande vigilance sur ce qui a été décidé à Paris il y a pratiquement 3 ans.
Il faut maintenant mettre les choses en œuvre. Nous avons eu, en 2009, un débat en France assez intéressant autour de la commission Rocard sur la mise en place d'une taxe carbone, où tout le monde semblait d'accord. On s'est dit, chouette, ça va marcher, enfin. Le message des économistes sur la fiscalité environnementale est passé. Et après, retournement de l'opinion publique. Et plus rien.
Elle existe, la taxe carbone. Elle devrait rapporter 15 milliards d'euros en 2022. On devrait l'utiliser à quoi, selon vous, Vincent Martinet?
Alors, en théorie, on devrait l'utiliser à rien de spécifique. C'est-à-dire que c'est pas une taxe qui est faite pour avoir un usage dédié. On devrait l'utiliser à réduire la dette, peut-être. Si on devait l'utiliser à quelque chose, ça serait aussi peut-être redistribuer vers les perdants. Parce que lorsqu'on met en place, on change le système de prix, on met en place une taxe, les ménages les plus pauvres sont ceux qui perdent le plus parce que ce sont les plus dépendants de l'énergie par rapport à leurs revenus. Et donc, ce sont ceux qui sont susceptibles de moins accepter cette taxation. Et donc, avoir un geste de redistribution vers ces ménages peut faire accepter la taxe.
C'est ce système de redistribution. Vous en pensez quoi, Valérie Grammont ?
Écoutez, c'est très important en matière de transition écologique, effectivement, de mener de front les transitions écologiques et les aspects sociaux. Parce qu'il est hors de question que les populations les plus défavorables trinquent. Et c'est bien pour ça, enfin, c'est bien pour ça qu'on veut résoudre le problème écologique. C'est que si on le fait pas, c'est évidemment une question d'inégalité sociale qui va se creuser. Il y a des outils comme les contrats de transition écologique qui sont des outils assez intéressants pour effectivement faire que concrètement les usines puissent passer d'un système à un autre, etc. La fiscalité est aussi un autre outil parce qu'on favorise les mauvais comportements.
J'ai un message qui va dans le sens de ce que vous nous expliquez sur la redistribution auprès des entreprises, mais aussi des consommateurs. Ce message de Jean qui nous a envoyé via la page de l'émission cet après-midi, ce petit témoignage. On n'a pas compris ou on fait semblant de ne pas comprendre que l'acteur clé pour la réduction, c'est le consommateur et pas le producteur. Comment faire changer radicalement notre mode de consommation en matière de voyage en avion, de consommation de viande, de produits exotiques, de belles bagnoles, nous dit Jean, bien sûr par un signal prix carbone, pollueur-payeur, mais il ne faut pas pénaliser les plus modestes, uniquement ceux qui ne changeront pas de mode de consommation. Qu'en pensez-vous, Jean Jouzel ?
Bien, je pense que en termes de voyage, par exemple, le low cost est quelque chose d'extrêmement dommageable vis-à-vis de notre environnement, c'est très clair. Et le low cost s'appuie quand même sur l'absence de taxes sur le kérosène, s'appuie sur généralement des subventions apportées par les régions vis-à-vis des aéroports et de l'accueil de ces compagnies low cost, c'est-à-dire que c'est quand même le contribuable qui paye. Et donc, c'est complètement anachronique ce low cost qui se développe et qui se développe, je pense, globalement aux dépens de notre environnement.
France Inter, Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Direction la Loire-Atlantique pour la question d'Yves. Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir. Bonsoir France Inter. Oui, la question que je me posais depuis un certain temps déjà, parce que j'y pense depuis quand même plusieurs années, et le déclencheur ça a été en 72 de mémoire, quand j'ai vu le film Le Soleil Vert, donc qui était une fiction à l'époque et qui est en train de devenir une réalité. Et donc aujourd'hui je me dis, il y a eu beaucoup de colloques, de réunions, de réflexions sur l'écologie, sur l'avenir de la planète, et on parle assez peu de la croissance démographique. Donc, je pense qu'avec les problèmes climatiques, ça va nous sauter à la figure dans quelques années. Et donc, les questions, je me posais sur pourquoi ne parle-t-on pas de limiter notre population mondiale, puisque on est de plus en plus nombreux à consommer et vouloir consommer et vouloir vivre à l'occidental. Donc, c'était la question que je me posais et je me disais pourquoi les politiques, pas uniquement en France, mais dans le COP21, on a évincé un peu cette question.
Question que vous êtes nombreux ce soir à nous poser. Cet autre auditeur par mail nous dit, on parle souvent d'écologie, mais on associe rarement la régulation de la population humaine. Pour quelles raisons ? Qu'en pensez-vous ? Vincent Martinet, pour l'INRA.
Alors, Vincent Martinet pour moi-même, sur cette réponse-là. Déjà, ce film a bercé mon enfance indirectement. Il a beaucoup marqué mon père, qui m'en parle souvent. Je ne l'ai jamais vu. Cette question de la population, elle revient sur le devant de la scène. C'était un peu tabou avant de parler de contrôle de la population, il ne fallait pas faire de paternalisme, etc. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de travaux en économie qui se posent la question de quelle est la taille d'une population optimale, durable, etc. On a aussi un message de l'Institut qui calcule l'empreinte écologique à un programme où il distribue des préservatifs. Et leur objectif, c'est de dire, en maîtrisant la natalité, on va avoir moins de pression sur les ressources, moins de conflits, moins de dégradation de l'environnement. C'est aussi un enjeu de développement. En maîtrisant la natalité, on a aussi les bases d'un développement mieux maîtrisé et peut-être d'une économie qui est plus stable.
Jean Jouzel, ce n'est plus une question tabou.
Non, ce n'était pas une question taboue. Par exemple, mon collègue François-Marie Bréon a dit hier dans Libération qu'il fallait diviser la population par 10. Donc j'ai aussi des collègues comme Jean-Loup Berthaud qui viennent d'écrire un livre justement pour faire ce lien entre, pression démographique et lutte contre le changement climatique. On voit bien la difficulté, mais au sein du GIEC, donc, comme je l'ai dit, j'étais vice-président du groupe scientifique de cette organisation, la démographie fait quand même partie des scénarios, c'est très clair. Donc on n'ignore pas complètement la démographie, mais on ne la met pas en avant, c'est exact. Et après, on a vu Emmanuel Macron, je crois quand même, qui est en Afrique, a engagé les Africains à faire attention aux effets de leur démographie, mais ça n'a pas été forcément bien reçu. Hein, on a vu cela. Donc c'est pas si simple, mais que le lien entre globalement la capacité, l'empreinte écologique, l'évolution de la démographie, l'évolution du climat, tout cela, c'est effectivement lié, et il faut être attentif.
Valérie Gramont.
Oui, moi je pense qu'il faut quand même avant tout considérer le mode de développement. Et quand on voit la différence entre la façon dont vivent les États-Unis, 5 terres si on reprend les critères de jour de dépassement. Donc si tout
il faudrait
5 planètes Terre si tout le monde vivait comme les Américains.
Nous on est à 3
on est à
peu
3.
Près.
On est 3. À 3 un peu comme tous les pays européens. On est 2 fois au-dessus de la moyenne mondiale et 3 fois au-dessus de ce qu'il faudrait. Mais on voit bien que pour passer de 5 terres à 3 terres, on est quand même dans un mode de développement. C'est énorme, hein, ces différences. On est dans un mode de développement plus soutenable. Pourquoi ? Parce que on gaspille un peu moins de nourriture. On produit un petit peu moins de déchets de plastique, même si on en produit beaucoup. On a des modes de déplacement plus soutenables, des transports en commun. On a une densité des villes qui est un peu plus intéressante. Donc on voit bien que par ces simples facteurs, en supprimant le gaspillage, 30%, je le répète, de l'alimentation qui est jetée. Si on se met à consommer plus simplement, comme une des auditrices nous l'a expliqué, on arrête de déforester, on arrête de le soja qui nourrit la plupart de notre bétail en France. C'est un impact majeur. Donc, considérons déjà le mode de développement. Il y a des marges de manœuvre énormes. Après, on peut effectivement faire des campagnes de contraception, etc. Ça n'empêche pas. Mais je crois que c'est vraiment faire l'autruche que de dire que c'est uniquement un problème de démographie. Ça n'est pas uniquement un problème de démographie. C'est essentiellement un problème de mode de développement soutenable.
Valérie Gramont, vous évoquiez la consommation de plastique. On a Marie-Hélène qui souhaite vous interroger là-dessus. Bonsoir Marie-Hélène.
Bonsoir.
Le département de l'Indre, on vous écoute.
Oui, de l'Indre-et-Loire.
L'Indre-et-Loire.
Oui. J'appelle parce que ouvrez vos yeux dans un grand magasin, et même à la maison, là par exemple, j'ai des volets accordéons en plastique. Les emballages de tringles à rideaux, les boîtes de rangement, j'en ai acheté 60, mais en plastique. La map monde, l'ordinateur, le sous-main, les sacs roses et violets de Carrefour, entre autres. Je vais pas au champ parce que c'est trop loin de chez moi. La radio, elle est toute emballée de plastique. Le téléphone, les volets, les chemises de bureau.
Jean Jouzel qui est en studio de rage a balancé son gobelet en plastique.
Non, c'était pas
je sais pas si
rage.
Vous avez entendu.
C'est une
navrée. La classeur à levier, pochette transparente, trousse, oui. Stylo, machine à laver, lave-linge à vaisselle, les sacs qu'on achète toujours en plastique.
Ça nous semblera...
Par quelle matière pourrait-on remplacer le plastique tout en étant aussi solide ?
Ça nous semblera invraisemblable, cet inventaire à la Prévert que vient de nous faire Marie-Hélène dans quelques années. Ça sera plus possible.
Moi, j'espère. On a déjà des emballages en plastique organique, en matière végétale qui peuvent se biodégrader. On a des bouteilles en verre. Alors, c'est pas très solide, le verre, mais si on est un peu précautionneux, on le casse pas. On pourrait revenir au métal. Les canettes sont un exemple.
D'autres exemples de...
Oui, technologiquement, on a effectivement une addiction. On a une addiction aux énergies fossiles. Mais et pourtant, on peut faire autrement. Et on a une addiction au plastique, ce qui est assez récente. Hein. Moi, j'avais une grand-mère qui n'a jamais utilisé de plastique. Elle vivait pas plus mal. On sait faire du plastique biosourcé, on sait faire du plastique compostable. C'est pas d'ailleurs la meilleure solution, puisque la meilleure solution, c'est de s'en passer, c'est la réduction à la source. Mais pour les usages indispensables, on sait utiliser du carton, du bambou. Si on fait fonctionner la R&D, on va utiliser certainement, inventer d'autres choses. Donc on peut tout à fait, ces plastiques à usage unique, les supprimer déjà. On n'est absolument pas, ce sont des habitudes qu'on a développées. C'est complètement inversable.
Jean Jouzel, là-dessus, et pour conclure, tout est à inventer.
Oui, tout est inventé. Par exemple, sur les emballages, évidemment, il y a beaucoup à faire. Oui, on a un monde à inventer, parce que c'est... Mais bon, moi, je dis aussi que c'est enthousiasmant pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que pour réussir ces transitions, on va parler de transition écologique au sens large, hein, pour effectivement, eh bien, c'est quand même beaucoup de recherche, hein, d'inventivité, de vraiment. Donc, moi, j'aimerais que les jeunes vraiment prennent le taureau par les cornes et pensent que cette transition est possible. C'est le message qu'on souhaiterait, je pense, tous leur laisser. Et puis, s'y engagent, parce que d'une certaine façon, ça peut être extrêmement passionnant aussi.
On n'a plus le choix.
Non, on n'a pas le choix. Pour tout ce dont on a parlé aujourd'hui, on n'a plus le choix, effectivement.
Mais il est encore temps. Ce sera peut-être ça le message optimiste.
Il est encore temps et c'est effectivement très stimulant, plein d'innovations, plein de créations d'emplois et pour un monde avec une meilleure qualité de vie.
Et Vincent Martinet, pour la recherche, il y a un boulevard devant nous.
Un boulevard pour l'interdisciplinarité notamment, faire conjuguer des regards de climatologues, d'écologues et des regards d'économistes sur ces questions-là, c'est primordial.
Ben merci à tous les trois d'avoir participé à l'émission, d'être venus nous expliquer concrètement pourquoi fallait donc arrêter de regarder ailleurs tandis que brûle notre maison. Valérie Gramont, le Fonds mondial pour la nature, le WWF, dont vous dirigez les programmes pour la France. Vincent Martinet, directeur de recherche à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Et Jean Jouzel, climatologue et auteur, pour ne citer que celui-là, du livre « Quel climat pour demain ?» 15 questions-réponses pour ne pas finir sous l'eau, paru aux éditions Dunod. Demain, le téléphone sonne, fera l'état des lieux de la sécurité aérienne. Toutes les questions que vous vous posez, bah, peut-être au moment de vous envoler pour les vacances, ça sera, s'il vous plaît, à partir de 19h15. Au générique ce soir, il y a Caroline Baudry, il y a Justine Biret et Pierre Gaufre pour m'aider à préparer l'émission, une émission que réalisait Clément Nouguier avec à la technique Clément Berman et Nicolas Delmas. Vous ne bougez pas. Fabrice Drouel arrive dans 5 minutes pour ouvrir ses affaires sensibles. Aujourd'hui, le combat d'échecs, Spassky-Fischer en pleine guerre froide. Passez donc une très belle soirée sur France Inter, il est 20h.